d'y chercher des choses anciennes et des choses nouvelles qui continuent à nourrir notre foi, continuent à nous alimenter. Merci Christelle pour ces mots sur l'Évangile. Oui, Jésus-Christ nous sauve par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Amen. Et je vous salue, je salue particulièrement Valérie qui est là, voilà. Elle se doutait bien que quelqu'un allait le dire, donc c'est moi, voilà. Merci d'être là, parce qu'elle était incognito, comme elle dit. Donc Valérie Rébert, qui avec Olivier était le couple pastoral ici, qui est parti il y a une douzaine d'années, quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là, et qui a été remplacé donc par Jean-Haut et Laetitia, que je crois voir là-bas avec d'autres personnes à l'étage. Donc bonjour à tous. Alors on nous a parlé de l'Évangile, de la fraîcheur de l'Évangile, de la simplicité de l'Évangile, mais cet Évangile, après, il nous appartient de le vivre tous les jours. Ça ne s'arrête pas le dimanche à midi, quand on va prendre l'apéro et puis passer à autre chose. Ça y est, ça entoure cette page-là, puis on attaque un autre chapitre de notre vie. Et il nous appartient non seulement de nous situer par rapport à telle ou telle obédience religieuse, telle ou telle théologie, mais vraiment de mettre ça en pratique, parce que ce que Jésus nous a demandé, c'est d'être sel de la terre et lumière du monde. Alors ces paroles, on les connaît, elles résonnent dans nos têtes, on les a entendues des dizaines, des centaines, des milliers de fois peut-être. Mais est-ce que ça n'est pas difficile à notre époque où notre monde est perturbé? Alors est-ce que c'est plus difficile qu'avant? J'en sais rien, avant on n'y était pas. Donc voilà, on peut toujours imaginer des choses et notre vie n'est pas plus dure que la vie de nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de repères sur lesquels était construite une certaine forme de civilisation ont tendance à être fragilisés, balayés, supprimés, enfin on utilise les mots qu'on veut. Alors peut-être certains de ces repères étaient mal placés, peut-être c'était juste les témoins d'une époque qu'on a du mal à abandonner, parce que changer c'est toujours compliqué, ou est-ce que certains d'entre eux sont des impératifs infranchissables? Est-ce que la parole de Dieu nous permet de trancher sur tous les sujets? Elle a été écrite il y a plus de 20 siècles. Est-ce qu'elle est pertinente pour répondre précisément à toutes les questions de 2025? C'est un peu cette réflexion que je vous propose de mener. C'était comme ça qu'on s'était réparti les rôles avec Christelle. Donc elle n'est pas surprise que je dise ça. Alors certains choisissent de rester comme avant. Hein. On connaît les Amish, par exemple, hein, aux États-Unis, qui ont choisi de rester comme, de continuer à vivre comme on vivait. Alors ils ont choisi un siècle, celui auquel ils sont arrivés en Amérique, par exemple. Bon, c'est un choix. C'est peut-être pas les seuls, hein, d'ailleurs, c'est les plus photogéniques, si j'ose dire, puisqu'on connaît tous les images de ces carrioles à cheval. Mais la question qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Comment mettons-nous en pratique la parole? Et surtout, notre action, notre prière, notre réflexion, notre engagement, quel sens ça va avoir dans ce monde? Finalement, est-ce que ça vaut la peine, j'allais dire, de se casser la tête? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et je partage en commençant une pensée qui nous vient d'un théologien du début du XXe siècle et qui dit « Si chacun de nous est une petite pierre de lumière dans le monde actuel, la cité de Jérusalem se construit déjà à l'intérieur de votre cœur. Du petit milieu immédiat dans lequel vous pouvez avoir une influence, et on a tous un petit milieu immédiat, nous-mêmes d'abord, notre famille par exemple, il y a un rayon qui part. Alors, vous restez là, non sans souffrance. » Et il continue en disant « C'est impossible, quand on aime Dieu, de ne pas souffrir en voyant l'état actuel du monde, mais dans la paix, une paix profonde, on vient de le chanter, une paix qui est une adoration et une réponse faite à Dieu aux négations que lui oppose le monde. Un jour, vous lui avez dit oui dans votre cœur. Ce oui vous a peut-être coûté beaucoup d'arrachements, beaucoup de déchirements. Vous avez depuis essayé d'être fidèle, non pas sans misère, mais ce oui que vous avez dit, que vous n'avez pas renié, il est très grand. Et les anges dans le ciel qui voient le monde tel qu'il est ne voient pas seulement ce que dit la grande presse, et les moyens de communication qui s'agenouillent devant le monde, ils voient quelque chose de plus mystérieux et de plus profond. » Alors oui, nous sommes invités à agir et je vous propose de passer en revue quelques situations actuelles dans lesquelles, voilà, qui, et partir d'exemples bibliques, de textes bibliques, il est toujours important de continuer à avoir nos racines qui vont chercher nos lumières dans ce texte biblique. Et on va commencer par un texte très ancien un épisode que peut-être certains ne connaissent pas dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Lorsque Samuel, qui à l'époque était juge sur Israël, donc c'était un peu un juge, un prophète, enfin c'était un peu le personnage au-dessus de tous à qui on venait demander des réponses à toutes les questions de la vie, qui portait des jugements, enfin qui devait, voilà, il servait un petit peu de tout cela. Mais lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël, le nom du second Abia, ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui disent « Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi, commandons toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Alors Samuel pria l'Éternel, qui dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. » Alors Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. « Voici les droits du roi qui règnera sur vous, et il les graine donc. Il prendra vos fils, il en disposera pour ses chars, il prendra vos filles, il fera ses cuisinières, il prendra vos champs. » Enfin voilà, vous lirez tout ce texte un peu en détail. Bref, il aura la main sur tout. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter et dit « Non, non, il y aura un roi sur nous et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il conduira nos guerres. » L'Éternel entendit toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, qui lui redit « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Qu'est-ce que ça a à faire avec notre époque, cette histoire-là ? Au premier abord, hein, ce texte, on l'utilise souvent pour montrer le peuple d'Israël qui s'éloigne, hein, qui s'écarte de la volonté de Dieu, qui choisit quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas tout à fait faux. Il semblerait que le système d'une royauté, avec tout ce que ça, tous les défauts que cela impose, une personne à qui on confie un pouvoir immense, un pouvoir humain immense, les juges étaient dotés d'un certain pouvoir, mais qui était considéré comme un pouvoir qui lui était donné, confié par Dieu, alors que là, il s'agit de confier à un homme un pouvoir absolument immense, et évidemment, celui qui détient le pouvoir, quel qu'il soit, connaîtra toujours la tentation d'abuser de ce pouvoir, et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que le peuple d'Israël cherche à s'organiser, à changer de régime politique, à trouver une réponse à ces questions existentielles. Déjà à l'époque de Gédéon, vous vous souvenez, il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, Guillaume nous a parlé de Gédéon, cet autre juge qui était là avant, et à la fin de sa vie déjà, et vous trouverez ça dans Juges au chapitre 8, on vient le chercher en lui disant « Attends, allez, finalement tu as été un bon juge, règne sur nous. » Et il dit « Non, je ne régnerai pas sur vous, mais l'Éternel sera votre roi. » Mais allons un tout petit peu plus loin. Quand Dieu dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, et ils agissent comme ils ont toujours agi, ils ont mal agi. » Est-ce que Dieu ne s'adresse pas aussi d'abord à Samuel lui-même ? Parce que quand Samuel a été appelé par Dieu et qu'il a répondu « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », l'idée était que Samuel mette en pratique tous les jours la parole de Dieu, l'explique aux gens, les aide à se diriger, à choisir leur chemin, à avancer. Et pourtant, le début du texte que je vous ai lu montre que Samuel a essayé en quelque sorte d'établir une dynastie, confier le pouvoir à ses fils pour que son pouvoir, son existence perdure au-delà de lui. Est-ce que c'était ça qui était prévu ? C'est pas tout à fait évident. Et puis ses fils, ils ont profité du pouvoir, ils sont devenus corrompus, ils ont profité de leur situation. Samuel ne pense plus à ça, c'est étonnant, parce que pourtant, si vous relisez un peu, vous remontez l'histoire, quand Samuel lui-même a été appelé pour « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », le début du livre de Samuel, c'était pour remplacer Élie et ses fils, qui avaient connu exactement la même dérive. on nous dit déjà que les fils d'Élie étaient corrompus, se livraient à tout un tas d'exactions et de choses abominables. Donc, quand Samuel vient pleurer auprès de Dieu en lui disant « Ah là, tu vois, ils sont en train de t'abandonner », est-ce qu'il n'aurait peut-être pas dû d'abord se dire « Et moi, où j'en suis ? Comment ma vie se termine ? Comment j'ai fait évoluer ma vie ?» Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Bien sûr, l'homme cherche toujours à s'autonomiser par rapport à Dieu, à prendre la main sur ce qui se passe, à oublier qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un à qui nous devons des comptes. Mais après tout, si Samuel avait été vertueux jusqu'au bout, est-ce que l'histoire aurait peut-être été écrite différemment, autrement ? Bon, chacun peut réécrire la suite de l'histoire en faisant une hypothèse différente de ce qu'a été la réalité. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, Dieu laisse faire. Ils veulent un roi, eh bien, tu vas leur donner un roi. Dieu aurait pu dire, non, il n'y avait pas question, je ne sais pas, enfin, si, tel qu'on imagine la façon dont Dieu intervient parfois de façon claire et tranchée, alors que là, non, il nous appartient à nous, les humains, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, de décider notre futur, de prendre des décisions, d'orienter notre vie, la vie de nos enfants, la vie des gens avec lesquels nous vivons, en fonction de l'instant, en fonction de la période. Et à l'époque comme aujourd'hui, le rôle du prophète, toute personne qui, quelque part, remplit un peu ce rôle, c'est d'attirer l'attention sur les conséquences possibles, probables. Samuel leur dit « Ok, vous voulez un roi, vous aurez un roi, mais je vous préviens, voilà ce qui risque d'arriver. » Ce n'est pas qu'il leur jette un sort, c'est pas qu'il leur dit ben « Voilà ce que vous allez avoir. » Mais il leur dit « Ben voilà, vous voulez vous orienter dans cette direction-là, mais sachez que là, il y a des risques. Et que même si je vous laisse votre liberté d'agir, il y a des risques. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui, à chaque instant. Nous sommes nous-mêmes dotés d'une intelligence, nous sommes nous-mêmes dotés de frères et sœurs avec lesquels on peut réfléchir, nous sommes nous-mêmes appelés à nous poser des questions sur les choix que nous avons à faire, à chercher la volonté de Dieu, mais ne soyons pas naïfs, nos choix ont des conséquences, ils ont des conséquences pour nous et pour d'autres. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde perturbé, on a parfois l'impression que telles orientations politiques, telles décisions, telles choses, etc., voilà, ça nous perturbe, et c'est pas illégitime que ça nous perturbe. Et je crois que ce qui doit nous perturber principalement, et en commençant par nous, comme Samuel aurait dû le faire, c'est que dans tout cela, est-ce que l'homme n'oublie pas qu'il y a un principe fondamental qui est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle, ça, aujourd'hui, dans toutes nos actions, dans toutes nos vies, dans toutes nos décisions ? Ce texte qu'on trouve dans les Proverbes, la crainte de l'Éternel, la crainte, ce n'est pas la crainte comme la peur, mais c'est le fait d'être en permanence conscient que même si notre liberté est grande, même si notre capacité de décision est importante, même si nous avons la responsabilité des choix que nous allons faire, nous à titre individuel, nous à titre collectif, à titre national, international, enfin tout ce que l'on veut, néanmoins l'homme a tendance, et nous aussi, à oublier qu'au-dessus de tout cela, il y a un Dieu et que lui-même, il a les cartes en main. Alors Dieu ne remet pas en cause nos choix. Il les accompagne. D'ailleurs, vous remarquez que le choix d'un roi pour diriger le peuple d'Israël n'a jamais été remis en cause par la suite. Hein, c'était quand Saül, le premier roi, bon, ça n'a pas été une réussite, Saül. Bon, ceux qui sont occupés de ressources humaines savent que ce n'est pas une science exacte, donc des fois on se trompe. Bon, là, manifestement, ce n'était pas le bon choix. Mais quand il a été mis en place, intronisé, La parole de Samuel est claire, elle dit « Si vous suivez ce que l'Éternel vous dit, ben voilà, il sera avec vous, mais par contre, si vous dérivez, ben ça sera compliqué. » Donc après Saül, qui était plutôt un échec, arrivera David, le roi David. Saül, c'était un grand monsieur beau, fort, d'une famille noble, ben c'était le parfait porteur robot de celui qu'on attend pour régner, quoi, pour être le chef, le roi, quelqu'un qui était grand, qui était fort, qui avait de l'argent, enfin tous les critères qu'on peut trouver. David, c'est un peu l'inverse, hein. C'était le petit dernier d'une famille beaucoup plus humble, des gens, des agriculteurs. Lui, il était à garder les troupeaux, les moutons, et on avait même oublié de le convier quand le prophète arrive pour faire une grande cérémonie. On avait même, voilà, on l'avait oublié. Ah ben, c'est vrai, il reste le petit dernier, allez le chercher. Et c'est David qui est devenu roi. Donc, Dieu ne remet pas en cause ce qui a été décidé, mais il accompagne. Et en quelque sorte, Dieu reprend la main. Quand l'homme dérive, quand nous dérivons, et ça c'est quelque chose aussi que l'Évangile nous apprend, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas en permanence, les uns et les autres, là où Dieu nous souhaite, mais nous avons aussi la confiance que si nous sommes prêts à cela, Dieu va reprendre la main, il va nous remettre debout, il va nous remettre sur un chemin qui est un chemin qui va bien. Quand nous dérivons, quand la société semble dériver, même quand il semble que tout s'éloigne de ce qui nous semble être la volonté de Dieu, Dieu reprend la main et il oriente vers d'autres solutions. Mais il oriente à sa manière, pas forcément en cassant l'existant, mais à sa manière. J'aime bien un exemple dans l'évangile de Matthieu, où c'est Matthieu chapitre 22, voilà. Dites-nous, des gens viennent pour quereller Jésus, lui poser des questions, c'est de challenger, hein, comme on dit aujourd'hui. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Vous connaissez cet épisode ? Est-il permis ? La question était légitime. Dans un pays sous occupation, est-ce qu'il faut qu'on continue à financer l'occupant ? Ou est-ce qu'il faut entrer en résistance, prendre les armes, prendre le maquis, etc. Voilà, ces questions n'étaient pas complètement illégitimes. Et Jésus, il ne va pas vraiment répondre à la question. Il va faire un pas de côté. Il va dire, il va ramener les gens à dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur votre pièce là ? Il a écrit César, rendez-lui son truc à César, et puis pour vous, pour votre vie, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire vous-même, consacrez-vous à Dieu et marchez dans la voie que le Seigneur souhaite. D'ailleurs, dans cet épisode de l'évangile de Matthieu, il y a d'abord, on voit que c'est les Hérodiens qui viennent challenger Jésus, puis après c'est les Sadducéens, puis après ça va être les Pharisiens. Ils y viennent chacun à leur tour pour essayer de lui poser une question piège et pour montrer que c'est un imposteur, pour essayer de le faire tomber. Alors le coup d'après, c'est les Sadducéens. Alors vous savez, eux, ils viennent poser cette question. Vous savez, il y a une femme était mariée à un homme qui est mort. Alors elle a dû épouser son frère, puis son frère, puis son frère. Enfin, bref, toute une smala comme ça. Et puis à la fin, ils sont tous morts. Et la question, c'est dans le paradis, ça sera la femme de qui ? Voilà. Donc c'était vraiment une question piège. L'idée, c'était d'amener Jésus à tomber. Et la réponse de Jésus est très claire. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas vous occuper de l'important. Et vous allez essayer de me coincer sur des choses comme ça. Jésus répond, mais il détourne la question, il fait un pas de côté, et il amène les gens à se poser les vraies questions, les questions fondamentales. Et le coup d'après, quand c'est les pharisiens qui viennent, maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et Jésus répond par ce double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent tout le reste. Donc arrêtez de me casser les pieds avec vos questions rhétoriques qui ne servent à rien, mais sachez que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et je crois que tout cela fait une certaine logique. Et dans notre monde perturbé, je pense qu'il est important de savoir que voilà où sont nos vérités. Alors ça n'empêche pas que on puisse se passionner pour les querelles, les combats politiques, que certains s'engagent, ou au contraire, je trouve ça très bien, hein, et qu'on ait des engagements publics et qu'on puisse dire quelque chose et voir éventuellement militer pour telle ou telle cause. Après tout, ça fait partie de la nature humaine aussi, mais n'oublions jamais qu'au-dessus de nous, il y a celui qui tient nos destinées entre ses mains. Certes, il nous laisse la liberté, certes, il sera toujours prêt à reprendre la main et à nous remettre sur le bon chemin si nous dérivons, mais dans notre monde perturbé, il faut savoir gérer nos priorités et savoir comment, sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on s'appuie, c'est ce qui nous a été rappelé en début de culte, l'Évangile. Jésus-Christ nous sauve par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Donc cette première illustration, à partir de ce texte ancien, c'est les changements politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous un peu en tête l'idée qu'avant, c'était mieux, quoi. Il y avait des règles, il y avait des choses, il y avait comme ça, hein. Puis des choses qui nous paraissaient chrétiennes, quoi. Plus que certaines dérives de la société d'aujourd'hui. Mais posons-nous les questions, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Et est-ce qu'il faut s'arrêter ? Est-ce que, vous savez, j'ai souvent entendu cette illustration, l'apôtre Paul dit « Ne vous attachez pas au siècle présent », mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'attacher au siècle d'avant, hein. Voilà, d'accord. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut choisir nos priorités. J'ai un deuxième texte qui m'est venu quand je réfléchissais après nos échanges avec Christelle. Il y attaque un autre sujet aussi, qui est clivant dans notre société. Je vais parler des relations hommes-femmes. Ah. Alors là, qu'est-ce qu'il va dire ? D'abord, je suis très content que Christelle ait pu être au micro avant moi. Mais C'est bien sûr un sujet clivant dans notre société. Il est clivant depuis longtemps. Il est aujourd'hui encore plus. Et aujourd'hui, il y a des moyens, des capacités qui font que certaines des barrières, c'est-à-dire naturelles ou des limitations naturelles qui existaient il y a 150 ans, n'existent plus aujourd'hui. Et ça nous oblige à nous poser des questions. Et je prends pour texte de réflexion, certains vont grincer des dents, mais bon, allez, tant pis, on y va. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Là encore, on cherche à amener Jésus, à acculer Jésus, à le coincer. Alors, première chose à laquelle Jésus aurait pu répondre tout de suite, c'est relisez la loi, parce que ce que dit la loi, c'est que si une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, ce sont les deux qu'on doit mettre à mort. Vous lirez dans Deutéronome 22 ou dans Lévitique 16. C'est ça qui est dans le texte. C'est pas la femme qui est. Les deux doivent être. Parce que si elle a commis l'adultère, c'est pas toute seule avec son miroir. Hein. C'est bon. Donc, je vous fais pas de dessin. Bon. Donc, première chose. Moïse nous a prescrit de la lapider. Toi, que dis-tu? Et donc, vous savez, après, à cette histoire, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu. Jésus répond pas, il s'accroupit par terre, il gribouille sur le sable. Certains aimeraient bien savoir ce qu'il écrit, peut-être que rien du tout, il faisait des dessins, ou il attendait que le temps passe pour voir comment allaient faire les gens, puis petit à petit, celui qui n'a pas de péché jette la première pierre, voilà, et puis il attend, et les gens s'en vont les uns après les autres. Et donc à la fin, Jésus se redresse, une femme, mais où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Alors là encore, ce texte est souvent commenté, cette phrase, hein, que c'est proverbial, que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre, on l'a souvent entendu comme cela. Mais je pense que là aussi, Jésus sort du problème dans lequel on veut essayer de le mettre, pour ramener les gens à une question plus fondamentale. Pourquoi est-ce que cette femme était en accusation? Parce que la société dans laquelle il vivait, un peu comme la nôtre, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais quand même, imposait une domination absolue de l'homme sur la femme, voilà, qui n'avait rien à dire, et qui donc, dès qu'il y avait quelque chose, était forcément plus coupable, a priori, que n'était l'homme. Et donc, à partir de là, il y avait des comportements qui étaient pour certains dans la loi, d'autres dans les habitudes, dans les façons de se comporter, de vivre, et qui finalement amenaient cette ségrégation, cette séparation. Cette histoire dans laquelle Jésus est impliqué me semble pas remettre en cause d'autres paroles que Jésus prononce par ailleurs, concernant le couple, par exemple. Et bien sûr que l'infidélité conjugale, les séparations, les familles monoparentales, les couples de même sexe, etc., ne sont pas forcément les choses. Est-ce que ça n'est pas une image ternie du plan de Dieu et de la façon dont Dieu imaginait les choses? Dans la Genèse, au chapitre 1, Dieu créa l'être humain, homme et femme, il les créa à l'image de Dieu. Les deux étaient créés pour un but, pour un projet. Et l'utilisation de ces textes se termine souvent que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous connaissez ces textes qu'on dit souvent pendant les cérémonies de mariage, d'ailleurs. Mais ce que Jésus dit, c'est nous sommes tous imparfaits. Personne de nous n'est absolument parfait dans sa vie, dans tous les domaines, pas seulement ce domaine des relations conjugales. Nous bronchons tous de plusieurs manières, dit l'apôtre Jacques dans son épître. Et alors, ce que Jésus fait comprendre à ses auditeurs, à ceux qui sont là autour de cette femme, en se disant « Allez, on y va ou pas ?»« Qui suis-je? Qui êtes-vous pour condamner cette personne ?» Sans même connaître le fond de l'histoire, peut-être. « Qui êtes-vous pour pointer du doigt ?» Vous savez, on racontait quand j'étais enfant qu'il ne faut pas montrer du doigt, parce que quand il y a un doigt contre l'autre, il y en a trois contre moi. Hein. Vous avez entendu cette illustration déjà comme ça. Peut-être que c'est un petit peu ce qu'ont ressenti ces gens qui étaient autour de Jésus et de cette femme. Ils ont compris que Jésus les amenait à quelque chose d'autre. C'est cette société dans laquelle ils vivaient, dans laquelle ils avaient organisé la vie à leur avantage, y compris la relation de mariage, y compris ce que ça représentait, qui souvent représentait aussi une saine gestion du patrimoine familial, hein, faut pas oublier quand même. Tout cela avait détourné la clarté du plan de Dieu. Hommes et femmes, il les créa à son image pour qu'ils soient ses représentants sur la terre. L'attitude des pharisiens, elle est complètement calquée sur ce qu'était leur époque. C'est aussi des choses qui nous touchent. Et nous avons peut-être tendance parfois dans ce domaine-là à avoir des réponses trop rapides, à ne pas réfléchir suffisamment profondément à ce que ça veut dire. C'est sûr qu'il y a des barrières qui sont tombées dans les dix dernières années. Il y a des choses qui se font. Voilà. La loi évolue. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé de trouver que c'est des bonnes choses. Mais en même temps, est-ce que ça n'était pas une façon de contrecarrer d'autres solutions, d'autres situations qui elles-mêmes n'étaient pas parfaites, n'étaient pas équilibrées et ne permettaient pas à chacun d'être à égalité devant le plan de Dieu et devant ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Marc, on nous relate au chapitre 10 un échange avec des pharisiens sur le droit du divorce. Est-ce qu'il est permis de répudier sa femme, puisqu'après tout, Moïse a donné un droit de divorce dans la Bible. Et Jésus leur répond, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dû mettre ça et a permis, ou a organisé, on va dire, la séparation. Mais ce n'était pas prévu au début, ça n'était pas ça le plan de Dieu. Et là encore, Dieu laisse l'homme prendre ses responsabilités. Dans notre monde perturbé, nous sommes tous chargés de cette responsabilité. Mais quelles sont les racines à partir desquelles nous allons agir, nous allons nous positionner, nous allons déterminer et orienter notre vie? Parce que le terrain est balisé, Dieu nous prévient, la parole de Dieu nous prévient que, voilà, si nous nous éloignons de son plan, si nous nous éloignons du chemin qui est tracé, ça peut avoir des conséquences et que nous avons à en tenir compte. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les repères dans ce domaine des relations entre l'homme et la femme, les repères d'une vie sérieuse, comme on la voyait au XIXe siècle, on va dire, sont un peu tombés. Techniquement, un certain nombre de choses ont permis que des barrières tombent, que la société se regarde et regarde les relations entre les hommes et les femmes de manière différente. Et nous sommes appelés, bien sûr, à vivre dans ce monde. Nous ne vivons pas au XIXe siècle. Mais, encore une fois, qu'est-ce que nous avons comme référence? Et je n'en citerai qu'une, ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates. Vous avez revêtu le Christ, et il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et dans toutes ces questions qui nous interrogent dans une société perturbée où des tas de trucs viennent bousculer nos habitudes et ce qu'on vivait il y a 30 ans, ou 50 ans, ou le temps qu'on veut, n'oublions pas que chaque personne qui est sur la terre a accès à cette grâce de Dieu en Jésus-Christ et est donc considérée par Dieu à égalité. Et que tout ce qui crée des différences et déséquilibre est mauvais, ou est mauvais, le mot est un peu fort toujours, mais en tout cas ne correspond pas à ce que nous lisons dans l'ensemble de la parole de Dieu. Alors il y a des réactions qui sont parfois excessives dans notre société, mais vous savez, le monde avance par rupture. Les sociétés avancent très souvent, principalement par des ruptures, par des sauts qui sont franchis. On parle de rupture anthropologique pour certains sujets. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis moi-même assez perturbé par rapport à notre époque, hein, c'est clair. Hein, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent, qui m'interpellent et qui me disent mais comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons tenir un discours aux gens avec qui on est en contact, hein, dans le premier petit cercle dont parlait notre théologien tout à l'heure, et puis pour que des rayons partent, avec des mots qui sont compris aujourd'hui par le monde dans lequel nous vivons. Et qui ne soit pas simplement calqué sur ce que nos parents nous ont appris il y a 50 ans ou ce que la société avait décidé il y a 200 ans. Et nous nous appuyons sur un texte qui a 2000 ans. Donc l'exercice est difficile. Il est compliqué. Et comment est-ce que nous allons nous créer des racines qui vont véritablement nous permettre d'avancer? Alors, je ne veux pas être trop long, mais on aurait pu parler d'autres sujets de société. Évidemment, tout le monde a entendu la loi qui est en préparation sur l'aide à mourir. Évidemment que ça interroge aussi ces questions-là. L'euthanasie active ou le suicide assisté, etc. Dire sur les soins palliatifs, c'est facile, tout le monde est d'accord, ça a été voté à l'unanimité. Pour autant, ce n'est pas mis en place et ça fait des années que ça devrait l'être. Mais bon, c'est une autre question, c'est une question des moyens et des priorités dans les moyens qu'on met en place. Mais sur cette question-là, bien sûr que ça interroge. Alors comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on doit juste dire que c'est mauvais? J'ai même lu un document qui m'a un peu choqué, qui dit que même le suicide assisté remet en cause le salut du chrétien. Attends, là on remonte à des années très très anciennes, où effectivement les gens qui se suicidaient n'avaient pas le droit à une cérémonie religieuse et étaient enterrés dans la fosse commune. C'était quelqu'un du CNEF hein, qui disait ça. Ça m'ennuie un peu, parce que c'est notre famille d'église au sens général. D'autres disent, des propos tout à fait opposés. Certains pays l'ont déjà adopté, c'est pas Valérie que j'apprendrai ça, dont certains sont plutôt étiquetés comme des pays plus chrétiens que nous, quoi, moins déchristianisés que nous, la Suisse par exemple. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, les avis sont très partagés là-dessus. Alors comment est-ce qu'on se prononce? Comment est-ce qu'on réfléchit? C'est pas là en 3 minutes qu'on va régler la question, ça mériterait. Et si d'ailleurs certains ont envie de discuter ces questions-là, ben moi je suis prêt à ce qu'on organise. C'est que ça avait été envisagé à un moment avec Laetitia d'organiser un peu des débats sur des questions de société. Et je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des vraies questions aujourd'hui dans notre monde où les chrétiens ne doivent pas se contenter de réponses simplistes, mais véritablement accepter de creuser dans la confrontation la façon dont on va répondre à ce qui est notre monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Nous vivons en 2025. Pas en 1965, on vit en 2025. Et c'est aujourd'hui que nous devons être chrétiens, lumière dans le monde, sel de la terre. C'est pas hier, et demain, on ne sait pas ce que ça sera. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on se positionne et comment on vit? Par rapport à cette histoire de suicide assisté, vous savez, la Bible parle d'un certain nombre de suicides. Il y a 7 suicides qui sont relatés dans la Bible. Bon, j'ai les références, si ça vous intéresse, je les donnerai à ceux que ça intéresse de creuser ce sujet de différentes manières. Mais ce qui est curieux, c'est que le suicide en tant que tel, par exemple, juste pour avancer là-dessus, n'est jamais critiqué. Il n'y a pas un mot qui dit qu'ils ont eu tort, qu'ils sont maudits parce qu'ils se sont suicidés ou qu'ils ont eu tort de suicider. C'était par ailleurs des gens qui étaient des fois bons et puis des fois pas bons. Bon, on pense à Judas, évidemment, on va le classer plutôt dans les mauvais, lui, hein, d'accord. Bon, il y en a d'autres, c'est moins clair. Il y en a même un qui a été enseveli dans la tombe de son père, hein, c'est comment il s'appelait, lui, Achitophel. Donc ça veut dire qu'il n'a pas du tout été rejeté, il a simplement, voilà, il a choisi ça. Donc, en tant que tel, la société a produit un certain nombre de barrières, de réflexions, d'orientations, de décisions. Mais réfléchissons ces décisions-là par rapport à ce qu'est la société d'aujourd'hui. Il y avait des raisons pour que ces choix soient faits à l'époque où ça a été fait. Mais la question véritable derrière tout ça, c'est pourquoi cette question est si clivante? Est-ce qu'on ne mourrait pas avant? Et la Bible nous parle d'Abraham, d'Isaac, de David, de Job même, qui sont morts âgés et rassasiés de jours. Donc semble-t-il dans une relative quiétude. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui sont morts depuis toujours avec des souffrances terribles et des angoisses. Huguette avait une tante dont la foi n'est pas à remettre en cause, hors de question. Et qui est morte à l'âge où on doit mourir, si j'ose dire, on devait mourir il y a 30 ans. Elle avait un cancer des os, donc qui est extrêmement douloureux sur la fin de sa vie. Et je me rappelle, ça nous avait frappé parce que elle disait à sa fille qui était souvent auprès d'elle, mais après tout, est-ce que tout ce qu'on a raconté, est-ce que c'est pas une vaste blague tout ça? Oui, une personne dont la foi avait guidé toute sa vie. Et à la fin, la souffrance était telle, l'angoisse était telle que elle était même à se questionner si elle avait cru en quelque chose de sérieux. Vous voyez, je ne tire aucune conclusion de ça. Mais juste pour dire que certains repères, justement, ont été mis de côté. Nous, chrétiens, nous disons que nous croyons en l'au-delà. Nous disons que nous croyons en la résurrection des morts. Nous disons que nous croyons qu'un jour nous serons avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de notre époque et comment est-ce qu'on peut confronter ça avec, justement, ces questions existentielles que la société est en train de nous poser. Et là encore, la base, la racine, la source, l'évangile où Jésus nous sauve par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais être trop long, et Christelle va me gronder. Mais voilà, d'autres sujets nous interpellent, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'homme augmenté, etc. Toutes ces questions-là qui traversent la société, c'est bien, c'est mal, ça va trop loin, où est-ce qu'on peut mettre des barrières? Peut-on mettre des barrières? Doit-on en mettre? Etc. Toutes ces questions-là qui traversent notre société, qui est dotée de pouvoirs technologiques absolument immenses, qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire, et qui permettent effectivement de faire des choses, même si, on va dire, la morale, ou l'éthique, ou la société n'a pas évolué à la même vitesse. Alors bon, envoyer des fusées dans l'espace et chercher à atteindre Mars, on s'en fout, c'est juste des dépenses, mais sur Terre, il y a des choses qui sont possibles, et qui nous interpellent. Évidemment, on pourrait parler aussi de la crise écologique, hein, et de l'éco-anxiété qui s'y attache, et de toutes ces choses-là, qui traversent notre société aussi, et qui appellent là aussi à se positionner, à réfléchir, et à prendre en compte ces sauts civilisationnels, ces sauts de génération qui viennent bousculer des certitudes. Et parfois, nous avons du mal à questionner ces certitudes pour nous dire, mais est-ce que ces certitudes, elles sont toujours pour aujourd'hui, et est-ce qu'elles sont vraiment fondées, ou est-ce qu'elles sont simplement des héritages dont nous avons mal à nous défaire et qui aujourd'hui nous guident. Dans l'évangile de Matthieu, vous savez, je vous invite vraiment à relire les béatitudes et tout le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. C'est là que l'évangéliste a concentré le plus de paroles qui n'ont peut-être pas toutes été dites au même moment, mais c'est pas grave, il en a fait un. J'appelle ça parfois la constitution de l'évangile, c'est ça que j'avais dit une fois, je crois. Donc c'est vraiment des bases. Et au chapitre 6, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent cela. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et encore une autre formule que nous devons ancrer. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Alors pour conclure, nous vivons en 2025, je ne sais pas si je vous ai éclairé, si je vous ai posé des questions qui vont vous embêter pendant tout le reste de la journée, si c'est ça, j'en suis désolé. Et ceux qui veulent, on peut continuer à en parler. Comment se diriger dans ce monde qui est tellement bousculé? Et je ne parle pas, bien sûr, des guerres. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux différentes guerres dans le pays? Israël, l'Iran, Gaza, machin, tout ça. Enfin, l'Ukraine, la Russie, le Soudan, qu'on oublie toujours. Tout un tas de régions dans le monde où il y a la guerre. Alors on n'y peut pas grand-chose, on n'a pas la main là-dessus, mais on est questionné là-dessus. Comment est-ce que vous voyez les choses, hein? Comment est-ce que vous pensez les choses? Juste quelques points pour terminer. Un, soyons comme le Samuel des débuts. Comme le prophète Samuel qui disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Première chose, c'est cela, c'est se dire « j'ai un pouvoir important ». Nous avons des capacités importantes de réflexion, mais aussi d'action, de décision, d'orientation. Mais par-dessus tout, mettons-nous à l'écoute de celui qui veut nous parler. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que, voilà, malgré nos pouvoirs, nous devons toujours rester conscients que quelqu'un est au-dessus de nous et que c'est auprès de lui qu'on peut chercher les orientations. Et Jésus à décliner, comme on l'a vu, cette vérité en deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle tout le reste. Sachant que toute personne sur la terre, homme ou femme, libre ou esclave, national ou étranger, ça a été mentionné tout à l'heure dans l'introduction de notre culte, a accès à cette grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et que ça, c'est une vérité aussi que nous devons partager. Quelle que soit l'origine et la situation des gens que nous croisons, ils ont tous droit à ce que l'Évangile leur apparaisse, les éclaire et les aide à orienter leur vie. Et donc, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous vivons dans une époque qui, parfois, peut nous surprendre, nous interroger, nous angoisser même, ou en tout cas nous obliger à nous questionner sur la façon dont nous allons mettre en œuvre ces vérités de l'Évangile et pouvoir véritablement être ce sel de la terre, cette lumière du monde, ce que tu nous appelles à être au quotidien. Seigneur, que les quelques paroles que j'ai pu prononcer ici puissent continuer à travailler dans nos esprits, dans nos cœurs, pour que petit à petit nous avancions et que véritablement l'essentiel ce ne soit pas les mots que j'ai dit, mais ces fondements, cette racine, cet enracinement dans ta parole, et que véritablement à chaque instant de notre vie, à chaque décision que nous avons à prendre, que ce soit pour agir ou pour parler, nous puissions avoir dans le cœur cette phrase « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, et ce que j'ai envie de dire, c'est les mots que tu vas me donner. » Merci pour ces moments ensemble, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide chaque jour, que tu puisses véritablement continuer à nous donner de l'aimer et d'avoir envie de la lire, de la travailler, de nous en nourrir, parce que c'est pour aujourd'hui qu'elle est vivante dans nos vies de 2025. Amen.